Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Vous avez bonne mine, Laurent.
Oui, merci.
Et oui, vous avez d'autant plus bonne mine qu'aujourd'hui est un jour important.
Pourquoi ?
Pour la France, il paraît que ce jour va devenir férié.
Ah bon ?
Oui, oui.
Dites-nous tout.
C'est votre anniversaire.
Oui, une bougie de plus, oui, merci.
Joyeux anniversaire,
merci,
Laurent.
Merci, c'est gentil. Merci Louis-Marie. Merci Guillaume, merci à tous. Merci Laetitia.
Vous êtes en pleine forme, vous revenez d'une semaine de congé, on avait tout dit à nos auditeurs.
Oui.
Vous êtes fringant, alors ce soir vous allez nous conseiller plein de films à voir à la télé.
Oui, j'ai sélectionné 4 films pour passer une bonne soirée de cinéma tranquillement au chaud dans son canapé. Et puis on peut aussi éteindre tous nos écrans et à ce moment-là il y a un conseil de lecture sur un livre sur le cinéma bien sûr.
Un livre sur le cinéma, ben, tout ça c'est pour tout à l'heure. Avec nous également, il est là, il est beau, il est extraordinaire, luisant. Vraiment, on ne voit que lui dans le studio. Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir Laetitia, bonsoir à tous.
Dites-nous, Guillaume Sidom, il me semble que ce soir, vous confiez votre atelier de mécanographie cinématographique.
Oui, je vais prêter ma manivelle avec plaisir à Laetitia. Donc pas de retour de manivelle ce soir exceptionnellement, nous allons frissonner à l'occasion de la ressortie en Blu-ray dans une édition sublime d'un film culte en référence au slasher.
Alors ça, c'est ce qui remplace retour de manivelle, il faut vous expliquer.
Exactement, j'aurai pour une fois un conseil de Blu-ray que j'emprunte aussi à Laurent Martin. Donc on change ouais.
On s'emprunte beaucoup de choses, on échange beaucoup.
Voilà, c'est ça.
Alors vous l'avez compris, l'atelier étant libre d'être utilisé par Laetitia Debord, elle est avec nous. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir tout le monde.
Alors Laetitia, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout bousculer dans l'atelier de Guillaume Sidom. De quoi allez-vous nous parler?
Tout à fait, d'un réalisateur. Pour l'instant, je garde le suspense.
Vous gardez le suspense? On peut avoir la nationalité peut-être?
Ah, française.
Ah, ça réduit, mais...
Un petit indice en bas de l'écran. Donc...
soyez attentifs. Il est également avec nous, vous le savez, qui nous poste chaque fois son petit billet d'humeur concernant les séries. Notre homme de loi des séries ouvre encore une fois son tribunal. Grégory Combe va nous parler de la mini-série espagnole La Cité des Ombres. Alors, il me semble que le titre original, c'est Ciudad de Sombras, c'est-à-dire La Cité des Ombres, tout simplement, puisque cette mini-série est espagnole et qu'elle est sur Netflix. C'est une série thriller, donc on va beaucoup vibrer. A-t-il vibré? Ben, nous le saurons tout à l'heure quand Grégory Combe nous livrera ses impressions concernant cette série, donc à voir sur Netflix. Ce soir, on regardera aussi dans le panier de l'ouvreuse avec l'affiche de la semaine que vous allez scruter, Laurent, avec l'ouvreuse. Il y a quelques films. Là, on reprend les habitudes de l'année dernière, même si c'était un peu en demi-teinte. En début d'année, en 2025, il y a eu un appel d'air, mais cette fois-ci, il semblerait que ça souffle, et toujours est-il qu'il y a une bonne dizaine de films à découvrir cette semaine. Et puis, on parlera reprise sur le grand écran et sur le petit, on vient de le dire. Et puis, en fin d'émission, vous l'avez promis, on livrera vos coups de cœur, vous, chers auditeurs, pour l'année 2025, vos coups de cœur à vous. Alors, c'était compliqué parce que il faut en trouver 5... Et c'est difficile, hein, vous tirez de part et d'autre, grand public, films d'auteur, et vous verrez, ça devrait convenir à peu près à tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Une dernière chose aussi, nous aurons un invité au téléphone, lequel? Luc Camilli, des productions Xbo Film. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que le film de Florence Miaille, produit par les studios Xbo Film, les Toulousains, et il est nommé aux Oscars du meilleur court-métrage d'animation. Donc, on est un peu content.
Ah oui.
Du côté de chez Xbo.
Belle performance.
Ouais. Ils vont aller faire un petit tour à Los Angeles. Enfin, on l'espère, on va lui poser la question. Toujours est-il que ce sera mi-mars.
On espère qu'il reviendra avec un petit supplément dans la valise quand même. Et qu'il a une belle cheminée.
Oui, exactement. En tout cas, On croise déjà les doigts tout de suite. Et puis tiens, puisqu'on parlait des nominations, juste un mot sur les Césars qui sont tombés aujourd'hui. Vous avez vu qui est en tête largement des nominations ?
J'ai pas eu le temps de voir.
Guillaume, vous qui êtes un fan de ce film.
L'étranger, non ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Nouvelle Vague, le film de Linklater.
Ah oui, tout à fait. Oui.
10 nominations. Et puis il y a L'Attachement et Dossier 137 qui viennent en deuxième position avec 8 nominations. Et Stéphane de Moustier et son arche, son inconnu de la Grande Arche s'en sort plutôt pas mal puisque Claes Bang qui incarne le fameux inconnu de la Grande Arche,
l'architecte,
est nommé dans la catégorie des meilleurs acteurs et dans les meilleurs acteurs dans un rôle secondaire. Et bien il y a ces trois acteurs, 3/5 sont du film.
Ah oui.
Oui. Ah oui, oui. Ouais. Swann Harlow, Xavier Dolan et Faux. Michel, oui. Qui joue le rôle de Mitterrand, voyez. Donc, ben là aussi, on aura l'occasion de commenter à un autre moment. Toujours est-il que c'est toujours intéressant d'en parler. Et si nous allions du côté de la mécanographie cinématographique avec vous, Laetitia.
Allez, partons à l'abordage.
Allez-y. Partons.
Grinçant, sarcastique, irrévérencieux, décalé, voici le cinéma de ce réalisateur osé mais pudique. Et si je vous disais Hal comme le père éternel adolescent de la série Malcolm, Bear au grand pied, à confirmer. Dupont, tout comme notre capitaine Antoine, connu des amateurs de rugby, il a raflé la médaille d'or avec ses 7 Césars pour le film Adieu les cons. Elle, comme le magazine féminin, dédié au bien-être et à la mode, il nous parlerait d'anticonformisme, de second degré et de liberté d'esprit. Vous avez évidemment reconnu Albert Dupontel, Philippe Guillaume pour les intimes. Sa raison d'être est de mettre en lumière les marginalisés, les incompris, les mépris, les gens bizarres, les zinzins, comprendre leurs blessures, faire jaillir leur humanité. L'absurdité est un moteur chez lui, qui nous emmène à la rencontre de ces personnages solitaires à qui on s'attache face à l'indifférence. Il y a toujours un sentiment de révolte, d'injustice qui vogue dans ses courts-métrages. Et si la vision de ses protagonistes un peu clivants pouvait avoir un effet salutaire ? Faisons connaissance avec Bernie, orphelin, mal aimé, cherchant un but dans la vie, premier film sorti en 1996.
Ça fait plusieurs années que je demande mon dossier à l'administration, mais ils m'ont jamais donné. Ils disent que c'est pour mon bien. Ils me connaissent pas, mais ça, c'est bien pour moi ! Ah, ça c'est quand même pas mal, ça !
Il fait face à l'administration et ses murs. Le parcours est fastidieux pour découvrir sa propre origine. Roland, SDF dans le film Enfermé dehors, son troisième long sorti en 2006, découvre par hasard sur son chemin un uniforme de policier et à cette occasion part s'aventurer à la cantine du commissariat. À la même augure, il se retrouvera à mener l'enquête pour les beaux yeux d'une jeune femme dont il s'éprend afin qu'elle obtienne la garde de son enfant. Toto Ciné, non pas Ciné Bristo, de la série Alias. Cette référence doit parler à la génération VIP aux milléniaux. Je charrie pour les autres. Toto est un braqueur de banque qui va se réfugier chez sa mère après avoir voulu doubler ses complices. La mama, qui est l'inverse du fiston, très tournée vers la foi, l'envie de faire le bien, plutôt poisseuse, mais qui s'en sort toujours bien. Le lien mère-fils est une thématique qui tient à cœur Albert Dupontel. Quatrième long sorti en 2009. Bob Nolan, dans 9 mois ferme, et sa rencontre avec la juge Felder, campée par Sandrine Kimberlin. Rôle féminin au premier plan. Des êtres opposés, elle plutôt dans le contrôle, sérieuse, considérée comme coincée. Lui a pris la route inverse, devenu criminel, plutôt décomplexé, malchanceux et un peu gauche. Et une surprise au rendez-vous qui va les unir. Mention spéciale à l'acteur Nicolas Marié, sa prestation de maître Trollo est vraiment iconique.
Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de cul ? curiosité intellectuelle. Ah, ah, et la curiosité, c'est quoi ?
Film sorti en 2013. Trio attachant dans le film Adieu les cons, année 2020. Formé par Sustrapé, coiffeuse malade, JB employé en plein burn-out et Monsieur Blin, aveugle archiviste solaire et solitaire. Le destin va réunir ces trois âmes cabossées et faire émerger une solidarité afin que Sus fasse connaissance avec son fils né sous X. Nous attendons avec impatience son prochain bébé avec un titre évocateur et piquant, Il faut brûler maman, à l'image de son réalisateur.
Laetitia Debord, qui était dans l'atelier de Guillaume Sidom. Et pour conclure son magnifique papier, et si on écoutait une BO ? Et une BO d'un film de Bouly Lanners, Les Premiers et les Derniers, dans lequel Albert Dupontel a le premier rôle. Jusqu'au bout des derniers et des premiers ou des premiers et des derniers. Mais on a un premier avec nous, Luc Camilli, le producteur et créateur d'Xbo Film, est avec nous en ligne. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Alors Luc, on est ensemble parce que on est content et un peu fier pour vous. Hein, on est aussi, on partage, vous savez, on a l'esprit large, nous, les Toulousains et plus largement les auditeurs de la radio et les Français. En tout cas, on est comme ça. Cocorico, votre film Papillon, en fait celui réalisé par Florence Miaille, le court-métrage d'animation, est nommé dans la catégorie justement court-métrage d'animation aux Oscars à Hollywood.
Tout à fait.
Et quel effet ça fait ?
C'est assez étrange. C'est une première pour moi, donc je ne sais pas vraiment, et pour Florence également. Mais on a un coproducteur, Sacrebleu Productions, qui a déjà pratiqué les Oscars, donc qui nous guide un peu dans cette expérience, puisque Sacrebleu avait coproduit, avait produit Flo, qui a gagné le,
oui,
l'Oscar du long métrage d'animation l'année dernière. Et donc voilà, pour mon coproducteur Ron Bions, c'est pas une première, mais pour Florence et moi, oui. Donc on est un peu fébrile, on sait pas trop ce qui nous attend, mais on voit bien que c'est quand même un sacré événement.
Laurent Martin.
Oui, bonsoir Luc. Comment vous avez appris la nouvelle ? Par mail, par téléphone ? Comment ça se passe ?
Non, on avait décidé pour être ensemble à ce moment-là, et puis pour aussi faire une petite vidéo qui pourrait nous servir à communiquer sur les réseaux sociaux le cas échéant, et donc ça s'est présenté de se réunir en visio. Alors il y avait Florence qui était dans les locaux de Sacrebleu, quelques membres de l'équipe qui étaient connectés en visio, et donc on a suivi en direct l'annonce, puisque l'annonce se fait sur YouTube en direct par l'Académie des Oscars. Donc on était la semaine dernière, jeudi matin, devant notre écran, à attendre l'annonce, et c'était assez chouette, parce qu'assez vite c'est arrivé l'annonce des nominations pour le court-métrage, et Papillon, qui se dit Butterfly en anglais, qui était le premier annoncé.
Ah. Et oui, c'est l'ordre alphabétique, pour pas qu'il y ait d'influence pour les, parce qu'il va falloir revoter maintenant. Vous allez faire le voyage.
J'espère bien, oui, je pense.
Ah bah oui, il faut ça.
Ça sera pas quand même.
Bah oui.
Comme ça.
Mi-mars. Alors, comment ?
Tout à fait, ouais,
c'est, oui, mi-mars. C'est mi-mars, hein, 14 ou 15, je crois. Quelque chose comme ça, hein, c'est
par rapport aux États-Unis, plus ou moins le 16 chez nous, enfin avec les décalages horaires.
Oui, c'est ça.
Dans la nuit du 15 au 16, je crois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que commence la cérémonie en fin d'après-midi, le dimanche, et ça finit pour nous dans la nuit du dimanche, puisque c'est 18h, et vous serez sur la côte ouest, le décalage horaire est plus grand. Donc, voilà. C'est tard dans la nuit. Ben, on sera fidèle, ouais, au poste. Et vous avez, qu'est-ce que vous avez là, sur le feu, en ce moment ? Qu'est-ce qui va débouler sur nos écrans, que ce soit les grands ou les petits ?
Alors, en petit, on commence à avoir quelques films qui se terminent. On a terminé un court-métrage qui s'appelle La Petite Reine Blanche, qui est une coproduction avec la Belgique, et qui va démarrer sa carrière le mois prochain au Festival Anima à Bruxelles, qui a été aussi sélectionné dans un festival à Stuttgart. Donc on est assez fiers, c'est un beau démarrage de carrière. Pour l'instant, il n'a pas de diffuseur, mais je suis sûr qu'il va trouver sa place dans des festivals, dans la région et un peu partout. Et puis, on est en train de terminer un court-métrage qu'on fait avec Arte. Donc, celui-là sera diffusé sur Arte. Je ne sais pas encore quand. Ce sera à programmer une fois qu'on aura livré, mais on le termine le mois prochain. Qui s'appelle La Question, qui est l'adaptation du témoignage d'Henri Alleg sur la torture en Algérie. C'est pas vraiment une comédie, mais c'est un film assez fort pour lequel on a eu le plaisir d'avoir la voix de Vincent Lindon, qui interprète un personnage.
En parlant de voix, comment vont vos comptes doc ?
Alors les comptes doc sont toujours disponibles sur la plateforme de France.tv et sur Roku. Donc ils sont diffusés. Ils sont diffusés aussi en version occitane par France 3 Occitanie. Et puis on essaye là de poursuivre l'aventure. On aimerait bien produire de nouveaux contes. Mais en attendant, on s'occupe en faisant notamment une série pour France TV Slash qui s'appelle Pionne. Et alors celle-ci, c'est une série un peu conséquente, puisque ça va être 52 épisodes de 2 minutes pour les ados adultes sur les expériences de vie au collège. Ce sera très drôle en dessin animé. Mais par contre, c'est en fabrication. On vient à peine de démarrer les storyboards. Donc, il faudra attendre début 2028 pour l'avoir diffusé.
Thomas VDB, c'était la voix ?
C'était la voix des comptes doc, oui, tout à fait.
Et puisqu'on veut des nouvelles, et Zoobox, ils sont toujours là ? Dans leur petite boîte.
Oui, le film est sorti en salle, a fait plus de 60 000 entrées, je crois.
Ouais.
Ce qui est pas si mal pour un film de ce format-là. Et puis voilà, il a été diffusé aussi sur France Télé. Il est je pense, disponible encore en ligne sur Roku. Et on va rediscuter maintenant avec le diffuseur d'une éventuelle suite. Sous forme de série, peut-être, ou un autre spécial à voir.
Ouais, les séries, ça vous connaît. Hein, on vient de parler des comptes d'oc.
On aime bien les petites séries. On va démarrer aussi une autre série avec Arte, qui s'appelle Bienvenue en Apicratie.
Ah!
C'est un documentaire animé en stop motion.
Voilà,
c'est un projet également.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Xbo est spécialiste de la stop motion.
Alors ouais, c'est une de nos spécialités. On s'est depuis quand même beaucoup mis à l'animation aussi 2D, dessin animé. Mais oui, le cœur de notre métier, en tout cas notre premier amour, c'est vraiment la stop motion, l'animation traditionnelle. Sous caméra, c'est dans cette technique-là qu'on a fait Papillon, puisque c'était en peinture animée.
Oui.
Et on continue à pratiquer beaucoup la stop motion. Ouais.
Ben, on espère avoir de vos nouvelles et les meilleures mi-mars. Hein.
Oui.
On
compte. Et ben, j'espère.
Hey. Allez, vous viendrez nous le montrer, ce trophée.
Oui. Vous aurez un petit supplément de bagages au retour.
Avec grand plaisir.
Luc Camilli, c'est très gentil de votre part d'avoir consacré un peu de temps ce soir pour nous parler de Papillon et sa nomination aux Oscars. On vous souhaite plein de belles choses. Et justement, pour vous raccompagner, ben, on va nager avec Alfred Nakache. On va plonger dans l'eau et écouter la superbe musique qu'avait écrit pour votre court-métrage, Pierre Oberkampf. Merci beaucoup, Luc Camilli.
Merci à vous.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Vous avez remarqué, Pierre Oberkampf, c'est difficile à dire, Pierre Oberkampf signe la musique, mais aussi tous les sons qu'on entend dans le film.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
À l'affiche cette semaine, Gourou, le nouveau film de Yann Gozlan, le réalisateur de Boîte Noire, avec Pierre Ninet, Marion Barbeau et Anthony Bajon. Alors, c'est l'histoire de Mathieu Vasseur, surnommé Matt, qui est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Je sais que Guillaume, vous êtes abonné.
Tout à fait.
À l'heure où les gens ne croient plus en la politique et se détournent de la religion, comme vous, Guillaume, il propose à ses adeptes une catharsis bien rodée, qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Et sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et de la gloire. Alors tout est en place dès la première scène. Hein. Imaginez un corps en surchauffe, un homme face à la foule, un discours qui promet tout, absolument tout. Et à partir de cette ouverture, Gourou s'enclenche. Alors Yann Gozlan ne raconte pas l'ascension d'un coach, mais orchestre plutôt sa descente aux enfers, comme si le film, ayant posé toutes ses cartes dès le départ, n'avait plus qu'à observer les conséquences. Alors comment filmer un monde saturé de discours sans en rajouter une couche? Comment mettre en scène la parole sans s'y dissoudre? Gourou avance sur cette ligne de crête. Il montre des séminaires, des plateaux télé, mais cherche son ancrage ailleurs, dans les corps, les objets, des images qui fissurent plutôt qu'elles n'expliquent. Ça peut être par exemple un fusil appuyé contre mur, un bain glacé un peu trop silencieux, un visage soudain vidé. Et ces moments où le film cesse de parler pour regarder sont les plus justes. C'est là que Gourou bascule vers le film noir au sens moral. Non pas l'histoire d'un imposteur démasqué, mais celle d'un engrenage. Plus le personnage parle et plus le cadre l'isole, l'enferme. Et cette tension fait vraiment la singularité du film. Alors faire du cinéma avec le discours tout en cherchant à ne pas en être prisonnier. Le film accompagne son sujet de plus près, au risque parfois de surligner et de réduire la distance critique. Alors reste toujours cette injonction finale, hein. Ne croyez pas à ce qui est dit, hein, surtout en période électorale qui nous attend bientôt, mais croyez plutôt ce qui est montré. Et Gourou n'est pas un film à thèse, mais plutôt une mise en abîme attentive à sa propre parole. Un thriller parano qui cherche à interroger ses images plutôt que ses discours. Petite revue de presse sur ce film, un cinématiseur a bien aimé. Un exposé vivant car angoissant des mécanismes du populisme qui depuis 10 ans gangrène toujours un peu plus les démocraties. Elle a bien aimé, un regard captivant. Voilà, oui, je lis elle. Le Figaro a bien aimé aussi. Gourou est un uppercut diablement efficace, immersif, parfois vertigineux, dont on ressort groggy. La revue Mad Movie n'a pas trop aimé. Gourou ressemble malheureusement plus à un caprice de star qu'à un véritable projet artistique. À l'affiche aussi cette semaine, beaucoup de sorties. On peut voir Baise en ville de Martin Jovat avec William Lebgill. Promis le ciel d'Erige Seiri, qu'on peut voir par exemple à l'American Cosmograph. La Grazia de Paolo Sorrentino avec l'excellent Tony Servillo. C'est l'histoire d'un président italien qui doit prendre des décisions très difficiles. Un film que vous pouvez voir au Grand Palais à Cahors ou à l'ABC Toulouse. On peut voir La Reconquista de Jonas Trouiba au Régent Saint-Gaudens ou à l'ABC Toulouse. On peut voir Nuremberg de James Vanderbilt avec Russell Crowe. On peut voir Dreams de Michel Franco au CGR Le Paris Montauban ou à l'Utopia Bordeaux Rouge. Reconnu coupable de Timur Bekmambetov, un film de science-fiction. On peut voir aussi La vie après Siam, un documentaire de Namir Abdel Messi à l'ABC Toulouse. On peut voir Howard Zinn, une histoire populaire américaine, un documentaire de Daniel Mermet. Ah,
de la base jésuite sur oui, France Inter. Oui.
Exactement. Oui.
C'est le 2. Hein.
C'est le 2, oui. Le 2. Exactement.
Parce qu'il y en avait. Si c'est le 2, c'est qu'il y en avait eu. Vrai.
En plus, c'est noté, je ne l'ai pas dit.
Donc, c'est pas grave.
Une histoire de populaire américaine. Deux, qu'on peut voir au Cosmo à Toulouse. Et puis pour les tout petits, c'est pour vous Guillaume donc, et on peut voir Les Légendaires, un film d'animation décisant de Guillaume Hivernel, et La Grande Révasion, un film d'animation dès 4 ans à l'American Cosmograph.
C'est dans Baise en ville de Martin Jovat qu'on peut entendre Ous de Racket. C'est le nom du groupe Racket, écrit R-A-C-K-E-T. C'est pas n'importe quelle raquette pour n'importe quelle Ous. Et le titre, c'est Oye. Martin Jovat, pardon, qui joue le premier rôle dans son film, l'histoire de ce garçon qui s'appelle Sprite, qui se retrouve coincé dans un paradoxe parce que sa maman en a marre de le voir à la maison à rien faire. Alors, il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d'un taf pour payer son permis. C'est-à-dire que c'est un peu ennuyeux. Et il y a Marie-Charlotte, sa monitrice d'auto-école, qui est prête à tout pour l'aider. Et elle lui prête son baise en ville. Ah oui. Et d'ailleurs, il ne sait même pas ce que c'est et à quoi ça sert. Ouais, eh bien, vous le découvrirez en allant voir ce film.
Je sais.
Allez, nous allons retrouver notre homme de loi des séries, Grégory Com, qui va nous parler de cette mini-série espagnole, La Cité des Ombres. Alors, une mini-série, c'est avec 6 épisodes. Il faut faire attention parce qu'il y a certaines mini-séries qui en ont 8. La définition de la mini-série est un peu particulière. Toujours est-il que celle-là a 6 épisodes. La Cité des Ombres, tout de suite, avec Grégory Com.
Je déclare l'audience ouverte.
Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña. Desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milá.
Cher Louis-Marie, avant de commencer cette chronique, j'avais envie de souhaiter un joyeux anniversaire à un membre de notre équipe qui, si je ne me trompe pas, prend une année de plus aujourd'hui, donc joyeux anniversaire, Laurent Martin. Vous êtes comme le bon vin, vous ne vieillissez pas, vous prenez justement en qualité. Et ça me fait dire que nous sommes encore quelques vieux jeunes autour de cette table et que on continue à s'amuser, à explorer, à s'énerver sur des œuvres comme de jeunes petits corrigans qui s'amusent. Et ça fait plaisir. Donc encore une fois, joyeux anniversaire, Laurent Martin. Alors, place à la chronique. La chronique, je vais vous parler de La Cité des Ombres, une série télé, une mini-série sur Netflix. La Ciudad de Sombras, alors pardonnez mon accent espagnol, c'est une série espagnole, un thriller. Et pourquoi déjà j'apprécie ? J'apprécie le format mini-série. J'apprécie le format parce qu'une mini-série, ça utilise les bons côtés de la série, c'est-à-dire plusieurs épisodes qui vont nous permettre de rentrer dans l'intrigue, de développer les personnages, plus que parfois dans un film. Mais en même temps, ça ne va pas sur les défauts des séries télé qui ne savent pas s'arrêter et qui font la saison de trop. Alors, il est arrivé malheureusement que parfois des mini-séries fassent des suites. Normalement, là, ça ne sera pas le cas, ou du moins peut-être sur d'autres intrigues, parce qu'on se souviendra tous de Broadchurch, qui avait une première saison extraordinaire et une saison 2 et 3 oubliable et oubliée. On se souviendra tous de 13 Reasons Why, saison 1 magnifique, qui devait être une mini-série, et malheureusement, ils ont fait d'autres saisons, et c'était horrible. Donc là, l'avantage, c'est qu'on se dit, on a 6 épisodes et on a une histoire complète. Ça fait du bien. Alors, ça parle de quoi ? Un crime horrible s'est produit à la Pedrera, Casa Milá. Un corps en flammes apparaît sur la façade du bâtiment emblématique de Gaudí. L'inspecteur Milo Malar, récemment suspendu, revient à Barcelone pour mener l'enquête aux côtés de Rebecca Garrido. Donc ça, c'est le synopsis officiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le classique du thriller avec le policier taciturne qui a des démons et qui revient après avoir été mis suspendu et donc il va devoir gérer les problèmes de son passé. Et on lui colle une nouvelle coéquipière. Là où c'est rafraîchissant, c'est que c'est traité différemment. C'est-à-dire que c'est pas un surhomme, c'est pas un génie. C'est un très bon inspecteur, mais c'est pas un génie non plus. Par contre, il va être bon pour cette enquête parce qu'il a des compétences particulières pour cette enquête. Donc ça, c'est traité différemment. Sa coéquipière, ça va pas être le côté, ils vont s'affronter pendant toute la série. Pas du tout. Ils vont se comprendre, ils vont travailler ensemble. C'est une relation de travail, c'est bien. Ça fait du bien. Même si évidemment, il y aura le drama de leur famille. Mais, ça prend pas non plus la place de l'intrigue. Donc ça, c'est excellent. L'autre point aussi, c'est que ils vont avancer dans l'enquête, mais ils vont être aidés. Ils vont être aidés par d'autres membres du commissariat. Certains vont leur mettre des bâtons dans les roues, mais je pense en particulier, je vais pas vous spoiler, mais un policier en particulier qui va régulièrement les aider à avancer en faisant des recherches ou autre. Et donc, on voit cet aspect équipe, moi qui me plaît beaucoup, parce que le travail d'un inspecteur, ce n'est pas lui seul qui résout des puzzles dans tous les sens, c'est justement toute une équipe avec une technologie pour ça. L'autre point intéressant, évidemment, c'est l'utilisation de la ville de Barcelone, avec une intrigue qui va tourner autour des œuvres de Gaudí. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on est dans un thriller, totalement dans la réalité. Rien de fantastique, c'est vraiment réalité. Mais il y a toute une enquête qui est assez intéressante et avec des retournements de situation qui vont vous tenir quand même en haleine jusqu'au bout de ces 6 épisodes. La réalisation est très bonne et clairement, on a un lieu qui n'est pas là juste pour servir de prétexte, mais qui est en fait un lieu de l'intrigue. Donc c'est une adaptation d'un livre à succès et c'est plutôt bien fait et respectueux du matériau d'origine. Et ça aussi, c'est bien. Trop souvent, Netflix a tendance à tout réécrire, alors que là, on est sur quelque chose de bien. Et malheureusement, la série lui est dédiée, c'est la dernière apparition de l'actrice Veronica Echegui, une actrice formidable, incroyable et qui peut jouer qui a pu jouer tant de rôles, qui est décédé juste après cette série. Et d'ailleurs, chaque épisode de cette série lui sont dédiés. Rien que pour lui rendre honneur et hommage, je pense qu'il faut le regarder. C'est une immense perte, évidemment, pour ses proches et une immense perte pour le monde de l'art en général. Donc, La Cité des Ombres, c'est une bonne série. Ce n'est que 6 épisodes d'une histoire complète avec des très bons acteurs et actrices, avec des décors vraiment somptueux et au final un traitement rafraîchissant du thriller à thème. Donc vraiment, voilà, chers auditeurs, chères auditrices, votre temps est précieux et vous pouvez le dépenser de voir La Cité des Ombres sur Netflix. Vous ne serez pas déçus. Je vous remercie.
Vous l'avez compris, c'est La Cité des Ombres qu'il faut regarder. Tout de suite, allez, non, pas tout de suite, tout de suite, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. Alfred Newman a écrit la bande originale de ce film fabuleux de 1950, réalisé par Joseph Mankiewicz, à savoir Ève en français. Le titre original, c'est All About Eve. Et oui, c'est ce que raconte le film. On va tout savoir sur Ève. Parce que au début du film, on est dans un théâtre où tout le monde est en tenue de soirée, et parce que on remet le prix Sarah Siddons, et qui est attribué donc à la meilleure actrice de théâtre de l'année, et il est décerné à Eve Harrington, que toute l'assemblée applaudit, sauf deux femmes et leurs maris respectifs. Celle-ci, eh bien, par l'entremise d'un long flashback, vont tout nous apprendre sur Eve. Tout sur Eve. All About Eve. On vous en dit pas plus, il faut aller voir ça. C'est redoutablement réussi, remarquable aussi. Bette Davis et Margot Channing, et Anne Baxter et Eve, la Eve du titre. Et puis, côté garçon, il y a entre autres George Sanders. Notez que, à l'époque, le film a eu... quelques Oscars, eh oui, 6, notamment le meilleur scénario pour Joseph Mankiewicz, le meilleur réalisateur pour le même monsieur, et le meilleur acteur dans un second rôle pour George Sanders, puis quelques Oscars techniques, et autres aussi, meilleur costume et film noir et blanc. Oui, oui, il y avait cet Oscar-là à l'époque. Ah, c'est un grand film, mais pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que vous avez l'occasion de le voir. Où aller le voir? Eh bien, à Muré, au VO de Muré. Ce sera dimanche prochain, 1er février, en VO à 18h10. Et puis, sinon, vous irez au Pâté La Belge, mardi 2 février, pour voir quoi? Oh, une très belle femme. Très, très belle femme. Un film de Gary Marshall de 1990, ça s'appelle Pretty Woman. Pretty Woman, le film qui a consacré Julia Roberts et puis son partenaire Richard Gere, l'histoire de cette jeune femme qui vend ses charmes et qui va se retrouver avec un milliardaire qui a besoin de passer une soirée avec une femme et puis une histoire d'amour va naître, n'est-ce pas Laurent?
Et qui a ressorti Roy Orbison de l'oubli, parce que sacré succès la chanson. Hein.
Oui, Pretty Woman. Ouais. Effectivement, la chanson a cartonné à l'époque. Le film, donc je le disais, au Pâté La Belge, version originale, mardi 2 février à 21h. Sinon, vous irez voir Twilight.
vous avez l'âge d'aller voir Twilight, le chapitre 1, le film de Catherine Hardwick. Ils vont tous passer les uns après les autres, ne vous inquiétez pas, on commence par le chapitre 1, Fascination, où on va découvrir les personnages et découvrir les gueules de Robert Pattinson et de Kristen Stewart, qui vont marquer les esprits, histoire d'amour entre un vampire et une toute jeune femme. Je vois Laetitia qui hoche la tête. Twilight, ça vous parle ?
Ah oui, ça me parle, oui. Bon, après, c'est sûr que maintenant, c'est quand même plus adolescent, mais oui, ça fait partie de ma génération. Ça a marqué.
Oui. Bah oui. Les films ont rencontré un beau succès. Voyons si la reprise va avoir le même impact. Toujours est-il que vous pourrez voir le film. Alors, le même jour, au cinéma Pathé Labège, jeudi 29 janvier, donc en VF à 19h30. Et si vous voulez la VO, ben vous irez à Wilson dans Toulouse, au Pathé Wilson dans Toulouse, à 19h45. Et puis, il y a ce festival qui revient quelquefois, qui s'appelle le Festival Annaby, quelquefois tous les ans, et qui est dans les cinémas. Alors suivez ceux qui sont à proximité de Rodez, ben, il y a le CGR, pour ceux qui habitent là-bas, vous pourrez voir les saisons Annaby avec les différentes programmations qui concernent. Et puis à Toulouse, c'est à l'American Cosmograph. Alors vous pourrez voir La Fille du Combini de Yuo Ishibashi, ou encore Fais-moi un signe de Mipo O, ou Sous le ciel de Kyoto d'Akiko Oku. Voilà un bien beau festival qui mérite le détour si vous avez l'occasion de voir ces films près de chez vous. Et puis une dernière chose concernant la Cinémathèque et la Galaxie Truffaut, et si on se payait de Truffaut, hein? Bah oui, on va pas se priver. 1962, Jules et Jim. Bah oui, Jules et Jim, c'est formidable, hein, jeune Moreau, oui, deux amoureux, c'est extraordinaire, hein. Rien à ajouter là-dessus. Puis un autre, celui qui a jeté les bases de la nouvelle vague, bah les 400 coups. Alors, je vous ai dit que Jules et Jim, c'était demain, jeudi 29 janvier, à 19h30. Vous savez que c'est au Pathé Wilson, en attendant que la Cinémathèque réouvre. Et pour les 400 coups, le film de 59. Alors là, vous irez dimanche 1er février à 17h pour découvrir Antoine Doinel tout petit, avant qu'il ne grandisse. Il a grandi comme Truffaut a grandi aussi en faisant son cinéma. C'est donc les 400 coups, la Galaxie Truffaut proposée par la Cinémathèque. Et qu'est-ce que vous allez... Oui,
je voudrais rajouter, si vous aimez Rob Reiner, il y a 4 films disponibles à l'Utopia, Borde Rouge et Tournefeuille. On peut revoir Princess Bride.
Oh, extraordinaire.
Avec Peter Falk, Robin Wright. Quand Harry rencontre Sally, grand classique aussi, peut-être son film le plus connu. On peut revoir Misery, d'après le roman de Stephen King. Et je crois que c'était un de ses premiers films, Stand By Me, avec le regretté River Phoenix.
Oui.
Alors, on peut revoir il date de 86. On peut revoir ces 4 films. Unissez-vous du programme Utopia, vous aurez toute la programmation. Ça se chevauche entre janvier et février, donc vous avez largement le temps de revoir ces 4 films de Rob Reiner qui nous a quittés tragiquement.
Oui, avec sa femme. Rob Reiner, donc, à Utopia, vous avez dit Borde Rouge.
Et Borde Rouge et Tournefeuille, il faut regarder le
programme. Oui, toute la programmation sur utopia.org.
Exactement.
Tout est là. Bon, maintenant, on a tout dit pour le grand écran. Pour le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le petit écran, oui, le cinéma, la télévision. Ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec le dernier duel de Ridley Scott avec Matt Damon et Adam Driver. En 1386, la cour du jeune Charles VI devient le théâtre d'un affrontement qui marquera l'histoire. Deux hommes déchirés par une trahison qui les oppose dans un duel à mort. D'ailleurs, c'est le dernier duel jamais autorisé par la justice royale française.
Donc, c'est le jugement de Dieu.
Le jugement de Dieu, exactement.
C'est ouais. C'est-à-dire que celui qui meurt a tort.
Voilà, celui qui gagne...
Ben, celui qui tue l'autre a raison.
A raison, voilà, exactement. Donc, content de s'intéresser à l'histoire de France, Ridley Scott connaît bien son histoire du cinéma, puisqu'il emprunte à Rashomon d'Akira Kurosawa. Rappelez-vous ce procédé de narration qui permet d'avoir les points de vue des trois principaux
différentes,
personnages. Ouais, exactement, là, les trois points de vue. Ouais. Vendredi, France 5, 21h, on peut revoir Adieu Poulet de Pierre Granier de Fer avec l'excellent Ventura et l'excellent Patrick Devers. Nous sommes à Rouen dans les années 70, un jeune colleur d'affiches est sauvagement agressé. Le commissaire Verjat mène l'enquête, solidement écrit et interprété, un polar vraiment captivant et nerveux, doublé d'une étude sans concession des arcanes du pouvoir. Dimanche sur Arte, 20h55, on peut peut-être le considérer comme un chef-d'œuvre, peut-être le meilleur film de Scorsese, c'est Aviator, avec Leonardo DiCaprio et Kate Blanchett, dans l'Amérique des années 20. On suit le rêve hollywoodien de Mark Dukes, hein, ce magnat de l'aviation qui voulait se lancer dans le cinéma, un visionnaire comme ça, obsédé par la perfection, et qui avait des talks d'éthique, enfin, c'était incroyable. Une biographie foisonnante, servie par une réalisation virtuose, hein, c'est du Scorsese, et une interprétation intense de DiCaprio, c'est du DiCaprio, vraiment un grand acteur. Lundi, Arte, 20h55, on pourra revoir L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam avec Bruce Willis et Brad Pitt. 1997, une épidémie foudroyante balaye la planète, et on se retrouve quelques années plus tard, en 2035, où les rares survivants se terrent dans les profondeurs de la Terre. Les animaux, désormais maîtres des surfaces ravagées, rôdent dans un monde retourné à la sauvagerie. Le film est inspiré d'un court-métrage de Chris Marker qui s'appelle La Jetée.
Oui. Un court-métrage assez long.
Assez long.
Assez long.
Assez long. Hein, vous savez qu'il y a des courts et des longs, long, ouais. Mais c'est un court long.
Un court long, voilà.
Une quarantaine de minutes.
Voilà. Oui, c'est long pour
ouais,
un court.
Ouais.
C'est en dessous de 50.
C'est facile, les courts-métrages c'est jusqu'à 59 minutes et 59 secondes et les longs commencent à 60.
Voilà.
C'est minutes.
Un peu comme l'émission, alors nous faisons un court-métrage.
Oui, nous, oui, exactement, on fait un court-métrage.
Un thriller passionnant d'une remarquable inventivité visuelle. Et puis on peut éteindre tous nos écrans et à ce moment-là, il y a une histoire du cinéma, le livre illustré de 130 ans du 7e art, un très beau livre de Mélanie Toubeau. Comme le livre, il est tout beau. De la chronophotographie au cinéma en relief d'Agnès Varda à Jordan Peele, en passant par le Festival de Cannes, Hollywood Bowl, Disney, Alfred Hitchcock, voilà, découvrez 45 portraits de personnalités, lieux, événements ou inventions qui ont révolutionné le cinéma. Un livre que vous retrouvez aux éditions Webedia Book pour 35 euros. Tenez Guillaume, je vous l'offre.
Merci beaucoup Laurent.
Et je vous demanderai de rester debout s'il vous plaît monsieur. Vous me demanderez de rester debout s'il vous plaît monsieur.
Vous avez compris Laurent.
Oui.
Restez debout.
Et je passe la parole à Guillaume.
Merci Laurent. Et oui, nous allons frissonner ce soir avec Week-end de terreur, un film réalisé par Fred Walton et sorti sur vos écrans en 1986, il y a pile 40 ans. Et à l'occasion de sa ressortie en Blu-ray chez Rémini Édition le 16 janvier dernier, une très belle réédition. Au cœur de la collection Angoisse, ce film nous propose une relecture maligne des 10 petits nègres d'Agatha Christie et une alternative aussi habile à l'habituelle succession de meurtres, slasher bien connu des cinéphiles de la génération VHS. Ce film va marquer les esprits en raison notamment de son final assez inattendu et en avance sur son temps. L'histoire est simple, hein. Murphy St. John, riche héritière, invite plusieurs de ses amis étudiants à passer le week-end du 1er avril dans un luxueux manoir situé dans une île privée que possèdent ses parents. La fête s'annonce grandiose. Murphy a préparé quelques poissons d'avril, mais la plaisanterie vire au cauchemar lorsque les invités disparaissent l'un après l'autre. Sorti donc en 1986, Week-end de terreur préfigure ce que va devenir le genre du slasher, un démarquage ludique et roublard de la vague de slasher initiée par le film Vendredi 13 en 1980. Une réussite exemplaire en termes de cinématographie, filmée dans un sublime scope par Charles Minsky, rythmé par une non moins sublime bande originale composée, elle, par Charles Bernstein, avec des jeunes comédiens déjà prometteurs, dont Amy Steele, mythique final girl du Tueur du Vendredi, ou Thomas F. Wilson, devenu célèbre pour avoir incarné notamment le méchant Biff Tannen dans la trilogie Retour vers le futur de Zemeckis. Le film de Fred Walton, lui, s'interroge évidemment sur la notion d'épouvante, sur le rapport peut-être avec la peur qu'entretient le spectateur, tout en essayant d'insuffler quand même du sang neuf au thriller horrifique, alors en quasi-perdition, et ça marche devant nos yeux. L'œuvre se visionne avec un plaisir non dissimulé. Week-end de terreur préfigure ce que va devenir donc le genre du slasher avec 10 ans d'avance. À retrouver donc chez Rémini Édition dans un somptueux coffret Blu-ray DVD et livré avec de nombreux bonus, dont la présentation du film par Mylène Da Silva de la chaîne Welcome to Primetime Beach, et un livret farce et attrape de 56 pages conçu par Marc Toulek. Frisson garanti.
On est arrivé.
Ah oui, déjà, on n'a pas vu le temps passer, dis donc.
sur la musique signée Chloé Thévenin, qu'elle a composée pour le film de Yann Gozlan, Gourou, eh bien, le moment est venu de vous livrer les coups de cœur de 2025 des auditeurs. Mais oui, mais avant de vous les donner, voilà, tirer au sort certains d'entre eux qui ont, nous ont envoyé le courrier comme ça, pour donner les leurs, hein, et voir... en prime, laissez-moi vérifier mes petites notes. Je me mélange un peu les crayons. J'ai tout sous les yeux ou presque. Oui, il y aura aussi les coups de cœur 2025 de Lou Denville que vous entendez tous les jours et tous les matins, en particulier sur cette antenne. C'est elle qui fait les flash info, l'info locale, les journalistes en herbe. Alors tiens, on va commencer par elle, hein. Une auditrice de présence et pour cause, puisqu'elle livre aussi ses impressions sur l'actualité à l'antenne. Alors pour elle, alors il n'y a pas d'ordre, hein, de préférence, il y a Mickey 17 de Bong Joon-ho, Sinners de Ryan Coogler, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, Zootopie 2 de Jared Bush et Byron Howard, et On ira de Enya Barou, chouette film, on ira, hein, avec Pierre Lottin, hein, c'est plutôt réussi. Et Hélène Vincent, qui est extraordinaire.
Toujours.
Cette maman qui veut aller en Suisse pour un suicide assisté, ouais. Et qui voyage sans l'avoir dit à sa famille dans un camping-car. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est plutôt réussi. Ah, Jean-Baptiste nous a envoyé aussi ses 5 films. Alors lui, Nouvelle Vague de Richard Linklater, et il insiste sur le fait qu'il a vu 2 fois. Alors, il a mis dans ses 5 films un film ancien, mais qui a été restauré cette année pour son 50e anniversaire. C'est Barry Lyndon.
Ah ben, excellent
Stanley
choix.
Kubrick.
Excellent choix, oui. C'est l'un de mes films préférés.
Avec
bravo,
des lumières à la bougie.
Ah oui, magnifique.
Hein. Oui, qui... la NASA lui aurait prêté certaines lentilles, vous savez, pour mettre sur les caméras, pour qu'il puisse filmer à la lueur des bougies. Et c'est pour ça qu'on a prétendu que... personne n'avait marché sur la Lune et que c'était lui qui avait filmé, imaginez Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchant sur la mer de la tranquillité. C'est complètement n'importe quoi. On continue avec Jean-Baptiste et Folmonte de Paolo Genovese. Le film d'animation de Sylvain Chaumet, Marcel et Monsieur Pagnol. Et le film documentaire de Raoul Peck, Orwell, 2+2=5. Et puis j'en ai d'autres aussi, vous les voulez, on a le temps, allez, rapidement.
Oui, oui.
Raphaël, c'est Raphaël qui a laissé ses impressions sur la boîte de notre ami Guillaume. Oui, 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 ne faites pas le surpris, vous avez des amis, Guillaume, vous en avez beaucoup, toutes celles qui vous attendent tous les mercredis soirs et qui vous font une haie d'honneur. Alors pour elle, il y a The Life of Chuck de Mike Flanagan, La Petite Dernière d'Avzia Herzi, A Perfect Unknown, on le dira, un parfait inconnu, le film de James Mangold sur Bob Dylan, le biopic, et En Boucle de Yamaguchi, vous savez, c'est dans une auberge au Japon, perdue dans la montagne. Les employés et les clients de cet hôtel vont finir par se rendre compte que ils vivent les mêmes 2 minutes qui reviennent chaque fois, 2 minutes, 2 minutes, tout le temps. Ça doit commencer à être dur.
C'est
déjà
pas un jour sans fin, c'est la minute sans fin.
Déjà, un jour sans fin, le revivre 24 heures, c'est long, mais là, toujours les mêmes 2 minutes. C'est terrible.
Ça dépend ce qu'on fait pendant les 2 minutes. Ça peut être agréable aussi.
Oui,
c'est
ça peut être.
Il n'y a pas la marmotte.
Marmotte japonaise.
Il n'y a pas la marmotte. Et puis, il est là, Arter. Alors lui, on lui demande 5 films, il nous fait une liste de 20. Alors, c'est compliqué.
Il a pris l'avance pour les années prochaines.
C'est compliqué.
Peut-être.
Alors, soyez bref, il reste très peu de temps. Dites-nous, allez, celui qui vous vient à l'esprit, parce que il faut donner ceux des auditeurs. On est à 55 déjà.
Alors moi, bonjour à tous. Alors moi, je retiendrai Nouvelle Vague, le Mission Impossible 8, parce que c'est la fin de la saga et que j'aime bien ce genre de film, je reconnais. Zootopie 2. Après, un quatrième... Bon, j'avoue, j'ai bien aimé Avatar, le dernier, parce que par rapport aux deux premiers, j'ai trouvé très bien. Et le dernier, Falcon Express de l'association TAT.
Ah oui,
bien
sûr. Oui. La production voilà. TAT.
Voilà, enfin,
Toulousaine. Voilà. Eh bien, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous livrer vos 5 films 2025.
Je vous en prie, c'est moi.
Et nous, on vous les donnera la semaine prochaine, parce qu'on est comme ça, on fait durer le suspense. Alors, vite, les films des auditeurs. Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson. Sinners, de Ryan Coogler. Un parfait inconnu, de James Mangold. Dossier 135, de Dominic Moll. Et puis James Cameron et Avatar 3. Et voilà.
Les auditeurs ont très bon goût.
Oui. Allez, on vous laisse. Merci messieurs.
Merci
bonne
à vous.
Bonne soirée, à mercredi prochain.
Merci Louis-Marie, et puis merci Béguy au
merci Laetitia pour cette belle performance. Et
merci
à vous. Vous n'êtes pas sali les mains, en plus. Beaucoup plus à droite que Guillaume. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles à présence et surtout, allez au cinéma.
Vivante Église. Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église.
Du lundi au vendredi à 9h30.